Les informations sont présentées par Alexandra Dubouchereau. Bonjour Alexandra.
Bonjour. Déjà 6 interpellations ce matin à Paris en marge du 5e samedi de mobilisation de gilets jaunes. C'est ce qu'annonce la préfecture de police. Après l'appel au calme et à l'ordre lancé hier soir depuis Bruxelles par Emmanuel Macron et les mesures annoncées lundi, quelle sera l'ampleur du mouvement? Ce mouvement qui n'a toujours pas de chef et dont les revendications sont multiples semble désormais se diviser sur la conduite à tenir. Retour sur 5 semaines de mobilisation populaire avec Audrey Dumain.
L'histoire des gilets jaunes commence sur les réseaux sociaux. Ils protestent au départ contre la hausse du prix des carburants. Pas de position politique, mais un même symbole pour se retrouver, le gilet jaune fluo obligatoire dans la voiture. Très vite, le mouvement prend de l'ampleur sur Facebook. Des milliers de personnes répondent présentes à une première journée de mobilisation le 17 novembre. C'est l'acte 1 des gilets jaunes. Plus de 290 000 manifestants barrent les routes dans toute la France. Le bilan fait état de 1 mort et plus de 200 blessés. Une semaine plus tard, les gilets jaunes sont moins nombreux, mais des heurts éclatent sur les Champs-Élysées. Le quartier autour de cette avenue va alors devenir le théâtre de véritables scènes d'affrontement. L'acte 3 est clairement marqué par une montée en puissance de la violence. L'Arc de Triomphe est même tagué et pillé, tout comme les commerces dans les alentours. Résultat, plus de 200 blessés sur les 136 000 manifestants. 3 jours plus tard, Édouard Philippe annonce la suspension de la hausse de la fiscalité des carburants. Pas de quoi apaiser les gilets jaunes qui dénoncent toute la politique menée par Emmanuel Macron. L'acte 4 est lancé et les forces de l'ordre s'y sont d'autant plus préparées. Près de 90 000 hommes mobilisés, dont 8 000 à Paris, protégés par des véhicules blindés. Résultat, un nombre record d'interpellations, 1220 gardes à vue, ce qui n'a pas empêché les débordements à Paris, mais aussi à Toulouse ou encore à Bordeaux. 2 jours plus tard, Emmanuel Macron revoit sa copie devant plus de 23 millions de téléspectateurs. Il annonce de nouvelles mesures pour la hausse du pouvoir d'achat, mais il ne convainc que 49% des Français selon un sondage Opinionway.
Un reportage à retrouver sur franceculture.fr. Et à nouveau, les forces de l'ordre sont donc particulièrement mobilisées aujourd'hui. Des policiers et des gendarmes partout en France, 8000 rien qu'à Paris. Dans la capitale, une zone interdite à la circulation et au rassemblement a été mise en place autour des sites sensibles comme l'Elysée. Il y aura également des agents mobiles et 14 véhicules blindés. Un canon à eau est également déjà sur place sur les Champs-Elysées. Des renforts sont aussi prévus à Bordeaux et Toulouse, cibles de violence samedi dernier. À noter enfin que plusieurs routes sont fermées par les préfectures par mesure de précaution, comme l'A10 au nord de Bordeaux, l'A6 à la limite entre la Saône-et-Loire et le Rhône. Des péages fermés également sur l'A7 autour d'Avignon. Et puis à Paris, une cinquantaine de gares et de stations de la RATP sont fermées aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, entre les appels au calme et à la responsabilité, l'exécutif peaufine sa grande concertation annoncée il y a 2 semaines par Emmanuel Macron. Un débat de 3 mois dans les territoires pour répondre au malaise fiscal. Il devait être lancé aujourd'hui, mais sa présentation est repoussée, on l'a appris hier. Explication officielle, la présidente de la commission du débat public, Chantal Jouanneau, doit encore rencontrer des représentants de Gilets jaunes. De son côté, Matignon relativise, les débats ont déjà commencé, nous dit-on, en référence à cette initiative des maires ruraux de France qui ont décidé dès le week-end dernier d'ouvrir leur mairie pour recueillir les doléances. L'opération Portes ouvertes se termine ce soir. Anne Fauquemberg, vous vous êtes rendue aux Molières, un village de 2000 âmes dans le département de l'Essonne.
On va en faire une première synthèse en urgence. Oui, parce qu'il faut collecter au niveau national.
François Jacob vient de déposer sa doléance dans la salle du conseil municipal. Avec le maire, ce retraité s'interroge sur l'avenir de sa participation, lui dont le texte promeut la prise en compte du vote blanc.
Je peux vous lire la proposition telle qu'elle a été soumise, hein. Le vote blanc doit être reconnu comme un vote exprimé et donc apparaître en pourcentage dans la répartition des voix, quel que soit l'objet du vote.
À 200 mètres, chez l'épicier, Romain Linière, un doctorant du village, va profiter de cette dernière journée pour aller s'exprimer. Autre préoccupation pour lui, la mobilité.
La difficulté, c'est que nous n'avons pas de vrai réseau de bus. Le réseau n'est adapté qu'aux lycéens ou aux collégiens qui sont à Limours ou à Saint-Rémy et qui leur permettent de prendre le bus le matin à 7h ou le soir à 18h. Entre ces deux créneaux, nous n'avons aucun bus.
Yvan Libraneski, le maire du village, ancien PS, aujourd'hui sans étiquette, ne découvre pas ses préoccupations, mais il s'interroge. Comment l'État va prendre en compte ses doléances sans tomber dans ses travers habituels?
Passer par le préfet en lui disant « Tiens, voilà une note de service, débrouille-toi dans ton département, fais des réunions, etc. » La politique comme on l'a faite au XXe siècle en France, pour les gens, c'est fini, quoi. Et l'État, il va vraiment falloir qu'il se pose la question, parce que si il lance son débat national par les tuyaux et les vecteurs habituels, il ne va pas y arriver.
Un maire qui incite l'État à reprendre appui sur la géographie, par exemple en Essonne, le parc naturel de la haute vallée de Chevreuse, qui fait sens pour toutes les communes alentour.
Un reportage d'Anne Fauquemberg pour France Culture et ses doléances recueillies dans le village des Molières sont à lire sur notre site internet. 7 personnes étaient toujours en garde à vue hier soir à Strasbourg au lendemain de la mort du suspect numéro 1 dans l'attentat de mardi, Chérif Chekat, abattu par la police dans le quartier du Neudorf. Hier, les habitants et les commerçants du marché de Noël de Strasbourg ont reçu la visite d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a également rendu hommage aux 4 personnes tuées dans l'attaque. Il a salué les forces de l'ordre et de secours qui sont intervenues depuis mardi. À noter que le plan Vigipirate a été rétrogradé hier soir en France au niveau risque attentat. Il est le nouvel homme-clé de la Maison-Blanche aux États-Unis. L'ultra-conservateur Mick Mulvaney a été nommé chef de cabinet du président Trump hier, un poste par intérim pour remplacer John Kelly. Les précisions de Grégory Phillips à Washington.
John Kelly a dit à ses équipes qu'être le chef de cabinet de Donald Trump était sans doute le pire boulot au monde. Cet ancien général 4 étoiles va donc quitter la Maison Blanche à la fin du mois. La presse américaine raconte que depuis plusieurs jours déjà, lui et le président ne s'adressaient plus la parole. Trump a donc choisi son futur chief of staff. Mick Mulvaney est un républicain de 51 ans, très conservateur. En 2011, il avait été élu à la Chambre des représentants sous l'étiquette du Tea Party. Mulvaney est nommé chef de cabinet par intérim, a dit Trump, laissant entendre que le poste était peut-être provisoire, mais la Maison-Blanche a vite précisé que sa mission serait sans limite de temps. En moins de 2 années, Mick Mulvaney sera donc le 3e chef de cabinet de Trump, qui cette fois a eu du mal à recruter, affrontant de nombreux refus. Un temps, le président a même pensé à offrir le poste à son gendre, Jared Kushner. La fonction est stratégique, le chef de cabinet est celui qui fait tourner la Maison-Blanche, qui coordonne l'administration, et il doit évidemment bien s'entendre avec le président.
Grégory Phillips, le temps sera froid et perturbé aujourd'hui. 8 départements du Nord-Ouest sont sous vigilance orange neige verglas. Les températures ce matin de -6 à 6 degrés.